Aujourd'hui, j'appellerai ma prédication comme ceci. Bon, alors vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est le temps d'un choix. Le temps d'un choix. Pourquoi j'appelle ça comme ça? C'est parce qu'il y a des moments où on doit faire des choix dans la vie. Il y a des moments où parfois on doit décider d'arrêter ou de continuer. Il y a des moments comme ça qui arrivent où c'est le temps d'un choix. Oui, c'est le temps d'un choix. C'est le temps, pas nécessairement de grandes décisions, hein, ce n'est pas ça que je veux dire spécialement. D'accord? Voilà, donc j'ai appelé ça comme ça. Et cette prédication que je vais vous apporter aujourd'hui est une prédication que je dirais de circonstances. Enfin, c'est-à-dire de circonstances dans le sens où, bon, ça ne se passe pas toujours de la même manière quand on prépare une prédication, on prie bien sûr, etc. Mais c'était évident. J'ai dit, il faut que je parle de ça, c'est-à-dire, voilà, les circonstances, je vais vous les donner. J'ai prié pour ne pas m'appuyer sur mon éloquence, hein. Ben, c'est mal barré, c'est mal parti, hein. Je ne le suis pas du tout. Hein. Bon, je recommence à zéro. Les circonstances, c'est quoi? C'est que moi, ce que je ressens, c'est une église un peu essoufflée. Alors que nous vivons le début d'un réveil spirituel, alors que Dieu est en train de faire quelque chose, et il est en train de faire quelque chose, et il l'a fait, il y a aussi, allez, soyons adultes, hein, il y a une réplique de l'ennemi là, hein, on le sent. C'est pour ça qu'on a fait cette semaine de prière et qu'on l'a intitulé « Résister au diable ». Ça va? Ok, donc je me suis dit, non, c'est important, je pense, de faire une prédication là-dessus. Sur le fait qu'il peut y avoir un découragement, une lassitude, etc. D'accord? Des épreuves. Ok? Voilà le contexte, et je me dis, il faut que je parle de ça. Alors, ce que je dis est important, parce que, voilà, donc c'est une prédication qui a un but. Une prédication, en tant que pasteur, que berger, je vois l'église, je me dis, non, je dois parler de ça. Évidemment, je prie, je demande la vie à Dieu, etc., tout ce que vous voulez. Je voudrais préciser aussi ceci. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, parce que c'est important. Donc ne soyez pas distrait par quelqu'un ou l'autre. Je ne parlerai pas d'une circonstance particulière. Ça va, je ne vise rien, aucun événement ni personne. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est le cas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que parfois, on peut dire, ah ouais, c'est vrai, il dit ça parce qu'il se passe ça. Non, non. Vous allez dire pourquoi je ne me justifie pas, c'est parce que c'est important. Quand je prêche, voilà, j'ai, une fois que j'ai à cœur quelque chose, c'est fini. Je ne pense plus, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis vraiment ce que le texte m'inspire, ce que Dieu m'inspire, etc. Et je ne pense plus à personne, à aucun événement particulier dans l'Église, ni quoi que ce soit. Vous me comprenez? Parce que si je ne dis pas ça, alors qu'on est une petite église, malgré que pour la Belgique c'est une belle église, mais on est une petite église, on se connaît. Si je ne fais pas ça, si je ne le dis pas, je peux me sentir dans la façon dont je prêche, je peux me sentir coincé, attention, ceci, etc. Non, je ne fais plus attention à rien quand je parle, ni à personne, je ne pense pas à ça. C'est comme ça, je fais ça tout le temps de toute façon. Mais aujourd'hui particulièrement, je tiens à le dire. Parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Bon, ça n'a pas commencé, mais Luc qui perd. Enfin, bon, bref, non, je ne vais pas citer tout le monde, sinon, alors je vais. Enfin, et ceci, et ceci, et cela. D'accord? Ça va? Et j'ai été clair. Voilà, comme ça, je me sens libre. Alors, je voudrais vous lire un texte. Je vais lire dans Genèse 12 et dans Genèse 13. D'accord? Dans Genèse 12, c'est Dieu qui appelle Abraham, pas encore Abraham, mais Abraham, parce qu'il va changer son nom après, enfin bon, bref. Dieu appelle Abraham à quitter son pays. Ok? Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. Bon, traduction, c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh, magnifique, n'est-ce pas? C'est un magnifique appel. Et c'est, je tenais à lire ça avant de passer à l'histoire suivante, toujours avec Abraham, pour vous rappeler les circonstances. Donc, Dieu appelle Abraham, comme Dieu t'a appelé. Ouh, Dieu t'a appelé, c'est ça, hein? Dieu t'a appelé en te disant, mais d'une autre façon, mais il te le dit, c'est vrai. Je ferai de toi, je t'utiliserai, qui que tu sois. Il va chercher parfois le plus misérable, le plus... enfin, c'est terrible quand on voit ce que Dieu fait. Et moi, n'étais-je pas moi-même dans la plus grande des misères, puisque quand le Seigneur est venu me chercher, il savait déjà ce qu'il voulait faire de moi, alors que j'étais un toxicomane notoire. Donc il va chercher les personnes. Et il dit, je vais faire de toi, je vais faire ça avec toi, je te bénirai. Enfin voilà, c'est des grandes promesses. Mais avant ça, hein, et je voudrais vous le rappeler, il dit, quitte ton pays. C'est le premier verset. Quitte ton pays. Autrement dit, le Seigneur t'a dit aussi, et ça devrait être compris le jour de la conversion, c'est-à-dire le jour où il dit, je fais demi-tour, je suis Seigneur. Quitte l'influence de ton environnement. Vous avez compris? Quitte l'influence de ton environnement. Quitte ton pays. Moi, je t'emmène ailleurs, c'est fini. Quitte ta patrie. C'est pareil, hein? Bon. Enfin, c'est pareil. Quitte ta patrie. Quitte l'influence, ça c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Et ta famille, quitte ta famille. Ma famille, elle habite là, ma famille est là, quitte ta famille. Ça veut dire quoi? Quitte l'influence. Quitte l'influence. C'est ça, non? C'est ça que le Seigneur nous a demandé, c'est ça que le Seigneur t'a demandé, c'est ça qu'il m'a demandé, quitte. Quitte tout pour moi, suis-moi, moi je vais t'emmener quelque part. Tu vas faire un voyage où tu dois tout laisser, tout ce que tu vois, avec tes yeux, que tu avais, tu vas laisser et tu pars. Tu pars et j'ai quelque chose d'autre pour toi. C'est ce qui s'est passé dans vos vies, j'espère qu'il n'y a personne qui n'est pas concerné par ça. C'est ce qui s'est passé dans vos vies. Voilà. Et alors, maintenant, je vais lire cette histoire parce que... Enfin, pas toute l'histoire. Je vais lire une partie de l'histoire. Abraham part, et il part avec... quand même avec pas mal de personnes, hein. Alors, il y a tout un périple, même, il va en Égypte et tout ça. Voilà, il ne fait pas que des bonnes choses, Abraham. Des fois, il fait des erreurs, etc. Mais en tout cas, il aime le Seigneur, il a une relation avec lui. Et Lot, son neveu, est avec lui. Lot, son neveu, est avec lui. Et c'est de Lot dont je voudrais parler, de Lot et Abraham. Je suis un peu désolé pour Lot, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas que du bon. Comme j'étais désolé il y a 15 jours pour Pierre, parce que j'ai souligné des choses. J'ai dit, oh là là, Pierre, et ben, bon, c'était pour... Voilà, hein, pourtant c'était il aimait vraiment le Seigneur, Pierre, hein, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je voudrais bien être comme lui, hein, mais on a vu quand même des choses pas... Voilà, toutes ces erreurs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à Lot. Je vais m'attaquer à Lot et un petit peu le comparer avec Abraham. Et je vais lire Genèse 13 à partir du verset 7. Il y eut une dispute entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit. Bon, je m'arrête. Ça va? Parce que je ne vais pas lire, puis revenir, etc. Donc, ils sont en chemin. Mais ils arrivent, on va dire. Et il y a une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham prend la parole et parle à Lot. Et on voit que Abraham va montrer ici la réalité, toute la réalité de sa foi et de sa relation avec Dieu. Il est le plus âgé. Vous savez, dans un... Maintenant, on ne respecte plus trop ça, mais normalement, on devrait. On le fait quand même encore, je l'espère. Mais d'autant plus à cette époque-là. Il est le plus âgé. C'est lui le patriarche. C'est lui le leader. C'est lui le père. Mais il ne s'appuie pas sur ses droits. Il ne revendique pas ses droits. Et il a beaucoup de douceur dans ses paroles. Et donc, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi. Abraham sent bien le danger. Vous voyez, il y a des choses qui ne se passent pas bien entre avec leurs employés, on va dire, leurs bergers, etc. Et Abraham, dans toute sa sagesse et dans son expérience, et comme je vous dis, il met sa foi en action. Je veux dire, enfin, c'est pas qu'il met sa foi en action, non. Son attitude témoigne de sa foi profonde. Et donc, comme je vous dis, il est plein de douceur. Il sent que ça peut les atteindre, eux, et créer une division, et créer des problèmes. Et donc, toute sa sagesse s'exprime au travers de cette véritable foi. Et c'est là le sujet aussi dont je voudrais vous parler, c'est de votre foi. Avez-vous la foi? Voyez? Avez-vous la foi? Parce que nous devons marcher par la foi et pas par la vue. Et c'est quand le moment de faire des choix est là, de prendre des décisions est là, vous voyez? Quand je dis décision, que faire? Voilà, ici, que faire? N'est-ce pas? Ça ne se passe pas bien, que faire? Toute la sagesse d'Abraham qui exprime sa foi. Et voilà. Et donc, il dit qu'il n'y avait pas de dispute entre toi et moi. Donc, il se dit, mais tout de suite, il a la sagesse de Dieu. Il dit, non, attention là, danger. Il ne faut pas qu'il y ait une dispute entre toi et moi. Ni entre tes bergers, mes bergers d'ailleurs. Car nous sommes frères. Quelle douceur, encore une fois. Nous sommes frères. Mais dans une société comme celle-là, Jean, ou je ne sais pas qui, je parle à peut-être plus une culture africaine où on est encore un peu plus comme ça. Tu vas dire, nous sommes frères à ton neveu? Tu vas dire, tu es mon fils et je suis ton père. C'est ça que tu vas dire, non? C'est logique. Et puis même nous aussi, de toute façon, mais c'est un peu perdu, on va dire. Eh bien non, il dit, nous sommes frères. Nous sommes frères. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je veux insister sur la foi. La foi qui s'exprime dans la réalité. Voilà. Alors, ensuite, il dit ceci, nous sommes frères. Et puis alors après, il commence, il explique, écoute, tout le pays est devant nous. Ils sont devant le pays. Tout le pays, enfin, il dit autrement, n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Quand on dit sépare-toi, quand Abraham dit sépare-toi, il n'a pas dit, bon, puisqu'on est en dispute, on va se séparer. Hein, attention, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, si vous lisez le texte, on dirait qu'il n'y avait pas assez. Voilà, ils étaient multipliés, etc., leurs richesses, leurs troupeaux, etc. Et donc, on dit dans le texte, il fallait qu'ils se séparent. Voilà, donc ça va. Alors, il dit, voilà, choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. D'accord ? Alors Lot, verset 10, leva les yeux et vit. Moi, j'ai souligné ça. Souligné, et vit. Voilà. C'est pas vivre, hein, c'est voir. OK ? Il voit avec ses yeux. Il voit avec ses yeux, pas avec son cœur, pas avec sa foi. D'accord ? Il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Alors, moi, je voudrais encore insister sur ce verset-là. Bon, voilà. Abraham, toute la foi d'Abraham s'exprime au travers de sa sagesse à ce moment-là, et de son amour et de sa douceur. Lot, qui pourtant était croyant, d'accord, je ne sais pas comment le dire, certainement on pourrait appeler Lot, aujourd'hui, on pourrait dire, mais c'est un véritable chrétien né de nouveau. Il ne faut pas dire le contraire, c'est un chrétien né de nouveau. D'ailleurs, on voit que, on sait que Lot a été, puisqu'il était il s'est dirigé vers Sodome et Gomorre, on sait qu'il était tourmenté par le péché et le mal qui l'environnait. Mais ses réactions sont quand même souvent bizarres. D'ailleurs, vous voyez même quand je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, quand Lot a reçu ces deux hommes, en fait, c'était, on va dire, des anges, mais et alors les habitants voulaient s'emparer d'eux pour les violer, etc. Il présente ses filles, il les appelle mes amis, alors que c'est des gens qui font n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il a des réactions bizarres, Lot. Mais bon, il est tourmenté par le mal et Dieu va le sauver quand même. Il s'enfuit, il va pouvoir s'enfuir de Sodome et Gomorre et Dieu va le préserver. Mais là encore, Dieu lui propose d'aller vers les montagnes, il dit non, est-ce que je pourrais pas aller dans une petite ville, enfin bref, il fait des choix toujours, je sais pas, on voit qu'il a je vais interrompre, mais je vois Éline, puisque tu te diriges là-bas, on peut voir, j'ai l'impression qu'il y a des va-et-vient avec la garderie, ça me perturbe un petit peu, il faut pas qu'il y ait 36 personnes à la garderie, une ou deux personnes, ça va, je parle pas pour toi, hein. Ça va, je parle pas pour toi, va voir, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème là. Je ne sais pas, Jean, si tu as vu, mais voilà, soyez pas distrait. C'est dommage si toute l'église commence à se retrouver, 5 à l'école du dimanche, 5 à la garderie, etc. Ça va? Alors qu'on n'est pas ici pour ça, ça va? Ok, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. S'il y a un problème avec un enfant, vous pouvez y aller, pas un problème. Bon, voilà, je continue. Il fait des choix bizarres. Toujours Lot. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que Lot, oui, c'est un chrétien. On va le dire comme ça, je sais bien, on ne peut pas appeler chrétien à ce moment-là, mais c'est un chrétien. Il est né de nouveau, oui. On peut dire ça. Mais sa foi manque de coffre. Sa foi manque, il y a quelque chose, je dis, mais ce n'est pas possible. Il n'a pas cette relation avec Dieu qu'a Abraham. Il n'a pas cette relation avec Dieu qu'a Abraham. On le voit. Et donc, voilà, je reviens donc à ce texte. Vous voyez le tableau. Il dit, voilà, tu as toute la plaine est devant. Tu choisis gauche ou droite. C'est pareil. Moi, je vais de l'autre côté. Et alors, eh bien, Lot fait ceci. Lot leva les yeux et il voit. Lot voit les yeux, lève les yeux et il voit. Donc, ça veut dire qu'il y a... Il fait, c'est ni une ni deux, il regarde, ah, là, c'est comme, je vais vous relire, hein. Il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, il voit ça, la plaine du Jourdain arrosée, et puis on dit, avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoar, comme, un jardin de l'Éternel. Vous voyez ? Pas de discernement. Il voit, il regarde directement. Oh, c'est beau. C'est comme un jardin de l'Éternel. C'est par là que je dois aller. Il ne consulte pas Dieu. Vous voyez qu'il consulte Dieu? Non. C'est beau. Et donc je choisis. Lot choisit, c'est le verset 11, pour lui, toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan. Voilà, c'est le pays promis. Tandis que Lot s'installa dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Mais ça, il n'a pas vu. C'est trop tard, il a déjà fait son choix. Il n'a pas vu. Il n'a même pas regardé, de toute façon. Il a juste vu ce qui était attirant. Et donc voilà, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » À toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Vous voyez, celui qui est resté, celui qui a été fidèle, qui ne s'est pas soucié de s'enrichir, mais qui a marché par la foi tout simplement. Vous voyez, qui a marché par la foi, qui a pris des décisions de foi. De foi. Il a fait, il n'a pas considéré ce qui était avantageux pour lui apparemment ou pas, non. Il s'est dit, que dois-je faire dans une situation où le conflit, la division risque d'arriver? Qu'est-ce que Dieu me conseille? La sagesse. Voyez ici, l'amour. Je m'efface, je dis frère, etc. Voyez ce comportement-là. Il se soumet à Dieu. Il a les yeux de Dieu, il a le cœur de Dieu à ce moment-là. Oui, parce que Dieu l'a restauré. Il avait aussi pris des mauvaises décisions dans le temps passé. Et voilà. Et puis après, ce sont les promesses qui viennent et les choses qui vont s'accomplir. Je rendrai ta descendance, pareil, à la poussière de la terre, etc., etc. Et puis on voit au verset 18, Abraham déploya ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Voilà. Il n'a pas choisi ce qui était beau à ses yeux et ce qui était facile, mais il s'est laissé guider par sa foi, par son cœur, pour prendre ses décisions. On ne peut même pas dire vraiment une décision. Là, la décision n'était même pas d'aller à l'est ou à l'ouest. La décision, c'était de laisser choisir. Voyez, un peu, bon, bref, pas rentrer trop dans les détails. Parce que ce que je veux expliquer ici, la chose sur laquelle je veux insister, c'est la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit, d'accord, ça va? Alors, je résume et je dis ça. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous voyez? La foi. Marcher par la foi. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et donc, alors que, je vous l'ai dit, que je parle à une église qui me semble-t-il... Je peux voir, mais vraiment à gauche, à droite, un peu partout comme ça, je sens un peu une lassitude, etc. Et voilà, et je pense que l'ennemi, il fait son travail aussi. Il y en a certains qui disent, on n'aime pas, on parle trop de l'ennemi, mais quand on parle de lui, ce n'est pas pour le glorifier, c'est au contraire, c'est pour le détruire, pour le chasser, voilà. Après, donc, avoir tout quitté, j'espère que c'est ce que tu as fait un jour. Conversion, c'est ça. Hein? Bon, ça ne veut pas dire qu'on déménage. Nécessairement, c'est pas ça, vous avez compris. Hein? Après avoir tout quitté, après une longue route, et là, je parle d'Abraham et de Lot, mais je parle surtout de toi, de moi, de l'Église. Après avoir tout quitté, après avoir... eu une longue route, un long chemin. Voilà le temps pour un choix. Je ne sais pas comment le dire d'autre que par choix, mais voyez que c'est plus subtil que simplement un choix. Hein? On l'a vu dans cette histoire. Voilà le temps de... Ah bon, je vais expliquer. Voilà un temps pour un choix après cette longue route. Alors que sans doute, parce que ça arrive, la fatigue est là. Ah oui, parfois après une longue route, même après une longue route avec le Seigneur, parfois il y a la fatigue qui est là. Peut-être le découragement, ça arrive. Eh oui, on l'a vu encore même avec Pierre, ça arrive, le découragement est là. Le doute même peut-être, ça arrive aussi. Et on l'a vu aussi avec Pierre, ça arrive. Ouais, je vous ai dit avec Pierre, je dis, ça vous est jamais arrivé? Parce que lui, oui, je vous ai parlé comme ça. Peut-être une certaine lassitude arrive. Ça vous est jamais arrivé, vous? Parce que ça arrivait. Je reparle de Pierre, ça lui est arrivé, il s'est endormi là et tout ça. Alors, oh, je vais prier, je vais te suivre partout, mais c'est pas veillé une heure. La lassitude. On l'a un peu senti quand même cette semaine de prière, où on n'a pas battu les records cette semaine. Oh, chaque mois, on dit, wow, on bat de plus en plus les records, les gens sont là, ils disent, wow, on sent la présence de Dieu et tout ça, on va venir à la prière. Mais la lassitude est là, une lassitude, une fatigue est là. Et puis on voit la foi, la réalité de la foi de chacun. Je ne suis pas en train de prendre les présences, de dire non, j'en sais rien. Il y a des gens qui travaillent à ceci, à cela, j'en sais rien, je ne suis pas du tout comme ça, ça ne m'intéresse pas. Faut-il leur dire encore, s'il vous plaît? Mais bon, je l'ai dit au début, mais je leur dis quand même, ce n'est pas ça mon propos. Mais voilà. Et puis parfois donc, même ça peut être un esprit endolori, vous voyez, après une longue marche, après un certain temps, après des expériences, après des épreuves, après des longues périodes de vie peut-être, je ne sais pas, une certaine lassitude de l'esprit, vous voyez, après toutes ces longues journées de marche. Eh bien voilà. Ça, je parle de toi, je parle de moi. Je ne parle plus d'Abraham et de Lot, c'était l'exemple. Je vous l'ai dit, Lot pourrait être appelé un chrétien. Mais ses choix ont montré la faiblesse de sa foi. Et maintenant, c'est là-dessus que je voudrais insister. Église de Warem, voilà, oui, c'est à l'église que je m'adresse. Église de Warem, passes-tu par la fatigue, l'épreuve, une longue route, la lassitude, l'esprit endolori? Parfois, vous savez, on a marché, tout ça. On dort mal, on remarche encore le lendemain, on a l'esprit endolori. Et puis c'est le moment de faire des choix, de prendre des décisions. Je vous l'ai dit, peut-être pas des décisions spécialement importantes, mais c'est parfois simplement le moment de... Enfin, parfois oui, mais parfois non. Enfin, quoique, elles sont toujours importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est simplement le moment de dire « Je continue » ou « Je me repose et je m'arrête ». C'est le moment de voir, c'est là le moment où, pas moi, le Seigneur voit toute la... Comment dire ? La consistance de ta foi. Es-tu comme Lot? Incapable, Lot, de donner une réponse spirituelle. Incapable, dans toutes les circonstances, toujours incapable de prendre des décisions, de faire des choix, de marcher par la foi, de prendre des décisions spirituelles. Il aurait pu protester, non? Il aurait pu dire, on pense à Ruth qui a dit, non, moi je t'abandonnerai pas. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire, mais il dit... Il aurait pu protester, oui. Il aurait pu dire, mais Abraham, je veux rester avec toi. Tu as un exemple pour moi, je sais qu'on va trouver une solution, mais... Ouais, il aurait pu ne pas être aussi intéressé par son troupeau et par sa prospérité, mais dire, je veux rester près de toi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire, mais en tout cas, il aurait pu... Moi, je ne sais pas, je me dis, mais j'aurais dit, mais Abraham, je veux rester avec toi. Me séparer, mais non, je vais faire comment moi? Je vais faire comment tout seul? Alors parfois, le Seigneur appelle certains à prendre leur chemin parce qu'il veut les fortifier, mais ici ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que Il ne tire pas des leçons de ce qu'il a vu de son oncle. L'attrait d'un monde trompeur, c'est ce qui nous guette tous les jours. Et c'est ce qui nous guette quand ta foi est éprouvée, c'est ce qui te guette. C'est ce qui me guette quand la foi est éprouvée, quand la lassitude est là, quand la fatigue est là. Eh bien, c'est ce monde trompeur qui te guette. Et donc, ça détermine parfois, malheureusement, l'attrait du monde détermine trop souvent les choix. Oui ou non? Moi, je suis tenté comme vous, hein, je suis pas différent. L'attrait du monde, ce n'est pas les sorties en boîte, hein, ce n'est pas ça seulement. L'attrait du monde, on voit ça de manière caricaturale, ce n'est pas ça seulement. L'attrait du monde, plein de choses parfois même légitimes, mais l'abandon de la foi, la lassitude dans la foi. Voilà. Alors, Lot, le caractère de ses habitants, le caractère des habitants de Sodome et de Gomorre lui échappe totalement. Faute de communion profonde avec Dieu. Bah oui, parce qu'il ne lui a même pas demandé. Non, il regarde, il choisit. Et toi, comment tu avances dans ta vie? Comment tu réagis alors que tu es fatigué? Marcher par la foi, c'est pas quand l'Église est submergée par la présence de l'Esprit qui... Voyez, ça peut, vous avez déjà vu, vous savez le principe du planeur. Le planeur, c'est un avion qui tire, et puis le planeur décolle, et puis après, quand il est en l'air, voilà, vous voyez, il plane tout seul, il décroche, l'avion se décroche, et vous voyez, il plane. Et les chrétiens croient que la vie avec Dieu, c'est comme ça. C'est planer. Mais quand il n'y a plus cet avion-là qui te fait planer, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où est ta foi? Voyez? Est-ce que je marche vraiment par la foi? C'est ça la question. Quel choix devant l'épreuve? Ou quel choix après l'épreuve? Ça dépend. Parfois c'est après. Quel choix avant l'épreuve? Quel choix après l'épreuve? Quel choix sur la durée de ta vie chrétienne? Quel choix tu fais? La foi, tu choisis. Est-ce que tu choisis la foi? La foi, marcher par la foi. Qu'est-ce que Dieu me dit? Toujours marcher par la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Tu choisis quoi? La foi ou la lassitude? Parce que la foi s'exprime non pas quand l'avion à emmener ton planeur là tout en haut, parce que là tu planes, c'est facile, mais le planeur il ne tient pas indéfiniment dans le ciel. Ta foi s'exprime maintenant, dans l'épreuve, dans la difficulté. Quels sont tes choix? Vous voyez, ce mot choix prend... Vous le comprenez un peu mieux maintenant, ce mot choix? C'est la vie de tous les jours, c'est de ça que je parle. Oui, parfois aussi ça peut être des choix précis, mais c'est la vie de tous les jours aussi. La facilité peut vous conduire comme Lot à une fin honteuse. Parce que la fin de Lot, c'est pas marrant, hein? Enfin, je veux dire... Je ne parle pas de sa mort quand je dis la fin de ça, mais la fin, il doit quitter. Enfin, je veux dire, bon, alors que Sodome et Gomorrhe sont détruites, enfin, c'est vraiment triste. Et donc, la facilité, je dirais, apparente, te guette. Et me guette. Et c'est la foi que Dieu nous demande d'avoir. La foi. La foi. C'est quoi la foi? Bon, alors, on lit un verset dans Galates chapitre 6, verset 7. Parce que ce ce verset, il récapitule un peu, on va prendre le verset 7 et 8 en fait, il récapitule un petit peu cette histoire, enfin il récapitule, c'est une bonne petite mise au point. Ne vous y trompez pas. Autrement dit, écoutez, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire « oui, mais bon, c'est ça, ne vous y trompez pas ». C'est notre attitude « ouais, mais bon, quand même ». Bon, non, c'est pas comme ça. Il y a des règles, voyez, c'est un peu comme si on disait ça, il y a des règles, bon, entre parenthèses, quoi. On ne se moque pas de Dieu, ça veut dire que, eh bien, on ne passe pas au-dessus des règles, quoi. J'aime pas ce mot-là, mais je veux dire, et les règles ici, en l'occurrence, c'est quoi? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bon, verset suivant. Alors, évidemment, quand c'est lu comme ça, on peut se dire, oh, c'est un truc qui reprend, qui est un peu méchant, agressif, là. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est bien. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, c'est ça le choix, en fait. Ne vous y trompez pas. Mais c'est pas un truc, tu vas moissonner. Non, c'est pas ça. Mais on le voit, Claude. Bon, Dieu ne l'a pas abandonné, c'est pas ça le problème. Dieu ne l'a pas abandonné, non, pas du tout. Et il connaissait quand même Dieu, mais connaître, je ne sais pas si c'est tout à fait le bon mot, voyez. Et Dieu ne l'a pas abandonné, mais il n'a pas semé les bonnes choses au bon endroit. Et c'est dommage, Abraham, lui, l'a fait en tout cas en cette circonstance-là. Et il a moissonné ce qu'il a semé, c'est tout. Vous voyez? Ne vous y trompez pas. Ne croyez pas que, alors que l'épreuve est là, peut-être pas l'épreuve, la lassitude est là, alors que la fatigue est là, alors qu'un certain découragement est là, alors que la route a été longue, je le répète, ne croyez pas que ce n'est pas grave de baisser les bras. Ne croyez pas ça, ne vous y trompez pas. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ne croyez pas ça. Et cet encouragement aujourd'hui, c'est de te dire, ta foi, c'est le moment de la mettre en pratique. Ça ne va pas. Mais ne baisse pas les bras. Parce que la Bible ne dit pas que tout ira bien et que tu vas être sur ton planeur pendant toute ta vie. Jamais la Bible ne dit ça. Jamais, jamais. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et la vie n'est pas ainsi. Oui, c'est une joie d'appartenir au Seigneur. Comme même certains d'ailleurs ont été jusqu'à la mort et ont dit, aller jusqu'à dire, c'est un privilège d'être persécuté, même d'être mis à mort pour la gloire de Dieu. Vous imaginez jusqu'où ils allaient. Mais nous, nous baissons les bras parce que la marche a été longue. Vous voyez un peu la différence? Et je parle à moi aussi. Hein. Je vais dire, oh, je ne sais pas, mais pour le moment, semaine de prière. Ouais, mais bon, voilà, je ne juge pas, encore une fois, je ne sais pas. Je m'en fiche, moi, je rentre pas dans ces considérations-là. Je ne sais pas ce que tel et tel a fait, je ne sais pas qui est malade, je ne sais pas qui travaille, ça ne m'intéresse pas, je ne juge pas. Ce n'est pas ça le problème. Mais je sens que l'Église a besoin de ça. Parce que l'Église passe par... L'ennemi réagit là. Tu fais quoi quand l'ennemi réagit? C'est ça. Ta foi, elle est où? Souviens-toi d'où tu viens et de ce que le Seigneur a fait pour toi. On peut venir à l'Église et se conformer, ou je veux dire conformer sa conduite à celle de ceux qui marchent par la foi. On peut faire ça, surtout quand ça va bien. Mais sans pour autant réellement marcher par la foi et marcher par l'esprit. En tout cas, pas avec la même détermination nécessairement. Et peut-être qu'on peut dire qu'il y a des mesures de foi. Et les mesures de foi, si on pouvait les peser, il ne faut pas se comparer aux autres, ce n'est pas ça le problème, on se compare à soi-même. Si on pouvait les peser, je pense que c'est face à la lassitude, aux choix, aux problèmes, aux épreuves, etc., à la vie, qu'on pourrait les peser. Pas quand l'Église plane et qu'il y a des frissons, des manifestations de l'esprit et des choses semblables. On peut conformer son comportement à ceux, enfin je dirais, enfin à ceux qui marchent par la foi, bon voilà, on peut le faire. Mais quelle est vraiment la consistance de ta foi? Mais, vous savez, il y a moyen de décider, hein, ça la foi, ma foi ne dépend pas seulement de la mesure que j'ai reçue. Parce que la mesure que tu as reçue, c'est de savoir ce que tu en fais, ce que j'en fais. Vous voyez? Et la foi, elle tend vers un but. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est vers ce but-là que tu tends? Ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Si ce n'est pas le cas, ta foi n'est pas parfaite. Et je vous dis tout de suite, je ne dis pas que la mienne est parfaite, elle n'est pas parfaite. Mais la foi parfaite, elle tend à ressembler au Christ. Les autres choses, il faut se poser des questions. Parce que la vraie foi tend à ressembler à Christ. Parce que le jour de l'épreuve, de la fatigue, le jour où le découragement frappe, frappe à ta porte, la chair va se montrer, je préviens, et c'est ce qui se passe, la chair va se montrer incapable de tenir ferme. Vous avez déjà vu ça, hein? Puis j'en ai déjà parlé en plus. Le jour où la lassitude va frapper, ta chair se montrera incapable de tenir ferme. Et même ce jour-là, la foi, la véritable foi devient, on dirait qu'elle devient sans attrait. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est le jour où il faut se remettre en question devant le Seigneur et c'est le jour où la foi est mise à l'épreuve. C'est ça la mise à l'épreuve de la foi. Que vas-tu décider ce jour-là dans ta relation avec le Seigneur? Le suivre, lui qui a été jusqu'à la mort et à la mort de la croix, ou baisser les bras? C'est ça la foi. C'est à ce moment-là, Église de Warem, que la foi s'exprime. L'incrédulité, elle a peur du chemin de la foi. Voyez, l'incrédulité, elle a peur des sentiers de la foi. L'incrédulité a peur de la foi. Ah oui, ben, c'est logique, évidemment, vous allez me dire, c'est une lapalissade. Hébreux, disons, j'arrive à la fin. Hébreux, avant ma conclusion. Tu peux prendre Hébreux, chapitre 11, verset 10. Hébreux, chapitre 11, verset 10. Parlons de foi. Abraham, parce qu'on dit « il » ici, mais Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Et ce n'était pas la vallée du Jourdain. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait la cité céleste. Qu'est-ce que tu attends? Je sais qu'on a tous envie d'être heureux ici sur terre et de réussir certaines choses, etc. Et on a certains besoins qui nous semblent même légitimes. Et des choses parfois que... Enfin, Dieu nous comble parfois de ces choses et il n'est pas... Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en plus. Je vous en ai déjà parlé aussi. Mais pourtant, nous, ce à quoi nous sommes appelés, c'est d'être ceux qui attendent la cité qui a de solides fondements, la cité céleste. C'est ça, la foi. Aujourd'hui, là où tu es, aujourd'hui, Église de Warem, là où tu te trouves, vas-tu persévérer, donc marcher par la foi, ou vas-tu choisir la lassitude? On va un petit peu plus loin dans Hébreu encore, Hébreu 12, verset 1. Parce qu'on parle de la foi dans Hébreu 12, verset 1. Eh bien, nous, ici, présents, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. D'accord? Bon, vous n'avez qu'à lire avant. Ça va? Vous n'avez qu'à lire le chapitre 11. Vous verrez l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui vous parle de ces témoins. Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejette tout fardeau. Rejette le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit aujourd'hui, je vous parle de la foi et de la preuve de la foi, de cette mise en action de la foi. D'accord? Vous l'avez compris ça. Mais il s'agit de péché aussi. Parce que rejeter tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement! Quand je suis fatigué, quand j'arrive au bout de la route, là. Oh, bon. Gauche, droite. Bon, allez, gauche. Non, droite. Le péché, l'attrait du monde qui nous enveloppe si facilement, c'est là qu'on va voir la foi. Rejetez le péché qui vous enveloppe si facilement et courons avec quoi ? Persévérance, courons avec persévérance. La persévérance, c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est quand je plane, c'est ça? Waouh, l'église de Warem, oh les dons et tout ça, voyez? C'est pas ça la persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, il y a une carrière qui t'est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, les regards fixés sur Jésus, qui, en vue de la joie qui était réservée, lui était réservée, ah oui, parce que c'est la joie qui lui était réservée, hein. Oui, oui, je ne parle pas de la crucifixion et je ne parle pas de oui, il est passé par là. Mais justement, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert. Il a souffert en vue de la joie. Voyez, a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Pourquoi, dites-moi? Afin que vous ne vous lassiez point, hein, l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Voilà. Voilà, Église de Warem, voilà. En conclusion, écoutez, à la prière, j'ai eu cette image-là, enfin, bon, voilà, je ne dis pas que c'est enfin, j'ai eu cette image-là, soit. J'ai eu cette image-là. Et j'en ai parlé, des montagnes russes, vous voyez? Je l'ai dit comme ça, je ne sais plus quand. J'ai parlé de ces histoires de montagnes russes. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. Avec Dieu, la vie avec Dieu, c'est un peu comme une montagne russe. Vous savez ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est, une montagne russe? Ouais, les attractions, trucs, vous rentrez dans les wagons, et vous montez très haut, des descentes vertigineuses, les tournants brutaux, etc. Puis les loopings aussi, etc. Enfin, bref, les montagnes russes, quoi. Eh bien, la vie avec Dieu, c'est un peu comme les montagnes russes. Je ne suis pas en train de parler de l'instabilité, là. Hein? Je ne parle pas de ça. Hein? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux dire que par moment, on est tout en haut, par moment, on sent une chute vertigineuse, par moment, on est secoué, par moment, voilà. C'est un peu comme ça. Mais le plus dangereux dans les montagnes... C'est quoi le plus dangereux dans les montagnes russes? Dites-moi. Pardon? J'entends pas. De ne pas s'attacher. De ne pas s'attacher, ouais. Ouais. Moi, je sais pas. En tout cas, je vais vous dire. À moins que, mais ici, les montagnes russes, la vie de Dieu, les montagnes russes du Seigneur sont complètement sécurisées. D'accord ? Et vous êtes bien attachés. Alors, c'est quoi le plus dangereux ? Ben, c'est de se détacher et d'en sortir. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la probabilité de l'accident, ce n'est pas ce qu'on ressent dans la chute vertigineuse, ce n'est pas d'être secoué, parce qu'on sait, quand on démarre et quand on monte très haut, là, et puis qu'on sait le point d'arrivée où il est. Et Dieu a promis des choses. Et ces choses-là, elles ne peuvent pas changer. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. N'est-ce pas Cécile qui me disait tout à l'heure qu'elle avait vraiment ce verset à cœur, entre autres. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Et nous arriverons à destination. Le seul danger qu'il y a sur cette montagne russe de la vie avec Dieu, c'est de dire non, c'est trop dangereux. Non, je ne veux plus continuer et de sortir. Alors là, c'est la catastrophe. C'est ça le seul danger qu'il y a. Vous pouvez crier, vous pouvez avoir des sueurs, mais il peut mal de vous arriver quoi que ce soit, à part des chutes vertigineuses parfois, à part des tournants brusques, à part des loopings, où on voit tout dans tous les sens. Mais vous savez où vous allez arriver. Et donc, je terminerai par une petite lecture que j'ai faite aussi à la prière. Et c'est dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 8, où il s'adresse à une église, vous savez, les sept églises. Et il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Alors, avant de lire, je prends des pincettes aujourd'hui. Je ne suis pas en train d'utiliser ce texte-là pour prophétiser sur Warem. D'accord ? Ça va ? Bon. Ou sur quelqu'un. Je suis en train de lire ce texte-là pour dire quelque chose que je vais dire. Voici ce que dit Jésus, ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres. Ta détresse et ta pauvreté. Donc, ce que je suis en train de dire et ce que Dieu est en train de dire, c'est que il connaît ta détresse. Ne crois pas qu'il ne connaît pas ta détresse. Il connaît ta pauvreté, quelle qu'elle soit. Et pourtant, tu es riche. Ah ben oui. Warem, tu es riche. L'église de Warem, tu es riche pourtant. Riche en Christ. Oui. Oui, amen. Et pourtant, tu es riche. Mais je connais ta faiblesse, je connais ta pauvreté. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan, on peut dire vraiment une église de Satan, enfin ceux qui te calomnient, ceux qui se moquent, etc. Enfin bon, bref, ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. Verset 10, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Ce n'est pas le planeur là. Hein. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je prophétise que l'Église va passer par un temps de souffrance ? Non ! Je ne prophétise pas, je dis que ce temps, il est déjà là, ça je peux le dire. Que dans certaines vies, il y a un temps de souffrance, que dans l'Église, il y a un temps de souffrance. Ce que je dis, c'est ça. Je ne sais pas s'il s'arrête aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas s'il commence peut-être aujourd'hui ou demain, pour certains. Je n'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que ce sont des choses qui arrivent. Le Seigneur annonce, tu vas souffrir. Et peut-être à certains, il dit, tu as souffert. Mais ce que je dis aussi, c'est que ça dure 10 jours. Alors 10 jours, ce n'est pas 10 jours, c'est un temps fixé. Et donc, tu passes par l'épreuve ou tu vas passer par l'épreuve ou tu es passé par l'épreuve et dis-toi qu'elle a un temps fixe. Et j'ai été étonné, enfin pas étonné, mais quand on a lu à la prière, Brigitte a parlé de Job et on voit que Job discute avec Dieu et que Dieu l'autorise à faire telle et telle chose dans la vie de Job. Mais écoutez, je me suis dit, mais vous savez quand on voit ça, enfin moi personnellement je me dis, mais pff, vraiment, est-ce que c'est encore possible maintenant? Est-ce que c'est Dieu est bon, etc. Est-ce que Dieu ne veut pas nous voir souffrir pour le plaisir? Et ça c'est vrai, c'est sûr, et je me pose toutes ces questions, vous voyez, je me pose un peu ces questions, je dis, ouais, après tout c'est l'Ancien Testament, enfin oui, c'est un raisonnement qui n'en est pas un d'ailleurs, et puis je me dis, mais non, non, regardez, dans le dernier livre de la Bible, regardez, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, dit Dieu. Alors quoi? C'est possible ou c'est pas possible? Ça se passe. Est-ce que je dois vous expliquer pourquoi ou pas? Est-ce que je rentre là-dedans? Non, je rentre pas là-dedans. Mais ça se passe, comme ça s'est passé avec Job. Et Dieu nous a-t-il abandonné pour ça? Non, il nous a pas abandonné pour ça. Non. Mais ça se passe. Il se passe des choses dans les lieux célestes, enfin j'aime pas les appeler les yeux célestes, peut-être les yeux, les lieux spirituels, etc. Il se passe des choses et Satan réclame, comme Jésus avait dit à Pierre, « Pierre, Satan te réclame pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. » Et Satan, parfois, il y a des temps où il jette des personnes en prison, pour un temps. Mais, si tu es fidèle jusqu'à la mort, il te donnera la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Notre foi, c'est ressembler à Christ et arriver là où cette montagne russe va nous amener, sûrement et certainement, sans aucun doute, sans aucun doute. N'aimez pas le monde, dit Jean, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Que cet encouragement vraiment vous encourage. Non, c'est pour vous vraiment. Tenez compte de ça. Il y a un temps fixé. Ne vous en faites pas. Et Dieu n'abandonne pas. Et l'amour, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Christ. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ.